Vous avez là des affordances racontées par les objets. Tout ce décor est un assemblage d'objets qui dit tout un monde. Et donc cette façon de mettre un seau un peu rouillé, abîmé, émaillé, toute cette construction du plan, évidemment, parle au spectateur. Et là, que vient-elle de faire? Elle vient de regarder, par un mouvement tête et cou, elle vient de regarder la cuisine. À moins que ce soit l'horloge. J'ai plutôt l'impression que c'est la soupe qui cuit. Ah, on la rattrape, hein, le projecteur souligne la blancheur. Quand tout à coup, le temps passe vite. Ah, tête et cou vers le haut. Donc l'horloge est en haut. Voilà, elle a été placée dans l'espace. Ici, les ombres sont menaçantes un peu. Il est midi, en tout cas, c'est le moment où on s'arrête de travailler, et c'est le moment où toutes les horloges sonnent midi. Et comme ça, Fritz Lang réussit à faire un syllogisme auditif. Qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme auditif? Étant donné qu'on entend l'horloge de l'hôtel de ville ou du beffroi, à un certain niveau, c'est qu'elle n'est pas très loin de l'appart. Mais d'autre part, quand on est dans la rue, on continue de l'entendre plus fort, puis on revient à l'appart plus faible, vous allez voir. Bon, je vous laisse découvrir le syllogisme auditif, c'est-à-dire un raisonnement préconscient qui échappe au spectateur. Parce que, mais pas au monteur son, et encore moins au mixeur. Alors ici, il est midi. Pratique, ça va durer 12 coups. 1. 2. Donc là, on a la fin de la caméra subjective et la mère qui attend quelqu'un. On peut croire, évidemment, on a vu que des enfants. Ça peut être son mari, mais ça peut être aussi les enfants qu'on a vus au début. Elle est contente, elle attend quelqu'un. Et voilà, on a gagné des décibels. Je ne sais pas si je peux vous faire écouter la saute. Est-ce que c'est bien nécessaire?
Non.
Non. On a gagné des décibels et on est dans l'espace russe. C'est-à-dire que le montage ici se divise en deux. Grâce au couplage de la pendule, du coucou et de la rue et de l'horloge, ça ouvre le montage parallèle qui est caractérisé en haut par une mère inquiète à laquelle on s'identifie grâce aux caméras subjectives qui ont été déclenchées par le midi. C'est habile parce que c'est midi, un mouvement de l'attention qui nous a permis d'entrer en caméra subjective et donc de commencer à s'identifier à cette mère qui s'inquiète. Mais c'est un déclenchement externe. Midi, qui nous a permis d'entrer en elle, en identification avec elle. Presque dehors, dans la rue, on est entré dans la rue par l'horloge bis qui nous dit il est midi partout, y compris dans la rue, donc c'est la sortie d'école. Et dans la rue, on en sait beaucoup plus que la mère. On n'a aucune caméra subjective, mais on en sait beaucoup plus que la mère. On sait que la Elsie va tomber dans les pattes du meurtrier et la mère ne le sait pas. Mais par contre, on s'identifie à la mère. Donc on a tout pour construire une dramatisation, une identification sur un personnage qui en sait moins que nous, et d'autre part, une rue qui en sait plus, à laquelle on ne s'identifie pas. Et c'est pour ça que ce prologue du film de M. Le Motif, ça fonctionne tout à fait, bien que ce soit bourré d'invraisemblances, comme on le verra dans un instant, mais ça fonctionne pleinement parce que l'aspect principal, c'est la division en deux de la rue, l'appartement, par le biais d'un double son, l'horloge et la pendule. Et ensuite, tout va fonctionner dans l'attente de la sortie de l'école. Justement, école communale, que voit-on dans cette école? On voit des gens aisés qui ont les moyens d'attendre leurs enfants Alors que Madame Beckmann travaille chez elle. Peut-être a-t-elle perdu son mari à la guerre, je n'en sais rien. On ne sait pas. On n'y pense même pas. Et là, on entend le poids de la cloche. Et ce poids diminué. Qu'est-ce que ça veut dire, ce poids diminué? Ça veut dire que l'école n'est pas loin du beffroi, est très proche du beffroi. L'appartement est un peu plus loin, mais pas très loin non plus, puisqu'on entend très bien l'horloge, n'est-ce pas? Donc c'est en fait une désignation à l'adresse du spectateur. L'école n'est pas loin de la maison. Et cette information est très importante parce qu'elle va dramatiser la durée. C'est impossible qu'elle mette 1h20 à arriver chez elle alors que le son nous a dit que l'école était toute proche du beffroi et l'appartement pas très loin du beffroi. Donc, ce genre de choses, c'est typiquement du préconscient. Ça s'adresse au préconscient, mais ça a été posé par un monteur son et mixé par un ingé son. Donc on voit bien la difficulté quand on est théoricien comme moi qui essaye de théoriser, et qui n'est pas lié à la pratique directe des choses, c'est d'imaginer comment ça se passe dans les différentes étapes du travail pour essayer de reconstituer les décisions qui ont été prises et à bon escient, puisqu'elles fonctionnent dans le préconscient du spectateur sans l'embarrasser. Donc là, on a un certain nombre d'informations qui marchent. Elle attend sa fille, en fait. Elle attend un enfant, sinon on ne serait pas allé voir l'école. Elle attend à domicile parce qu'elle y travaille. Midi vient de s'achever. Retour à la rue. Fritz Lang réintroduit l'idée du danger sur un klaxon. Montage son. Mais la police veille. Donc, question, est-ce qu'on coupe avant la sortie ou après la sortie? Si on coupe avant la sortie, il faut raccorder dans un contre-champ. Si on coupe après la sortie, eh bien on laisse planer l'idée que l'agent de police est simplement là pour l'aider à traverser la rue et non pas pour l'accompagner à son domicile, car il y aurait trop de monde à accompagner. Donc, ici, le spectateur est coproducteur du sens parce qu'il va encore une fois nourrir ce qu'il voit à l'écran avec tout ce qu'il sait de la vie pratique. C'est en fait, l'écran n'est qu'un déclencheur, un écran bien réglé par le montage. Donc ici, sortie de champ, et hop, on peut les lâcher et revenir à la mer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les théories de la Gestalt théorie qui était très à la mode à l'époque en Allemagne, la théorie de la forme, la Gestalt. C'était l'époque où on s'amusait à faire des dessins en cachant des renards dans les feuilles et des choses comme ça. Vous voyez, il y avait de multiples lectures de la même réalité coplanaire écrasée sur un écran ou sur une photo. Que voyons-nous ici? On voit la planche à repasser se transformer en couteau et le tablier de la mer se transformer en gros lapin. Ce sont évidemment des visions subliminales qui ne sont pas imposées. Elles sont justement à l'état, comment dire, subliminal, sous le seuil de la perception, de façon à ne pas dire si heureusement qu'elles sont sous le seuil. Parce que si on les voyait, on dirait, mais oh, la bonne blague, la bonne tarte. Justement, la difficulté, c'est de rester sous le seuil. Mais l'inconscient du spectateur peut-être lit cela comme une métaphore du meurtrier et de l'enfant. Bon, peut-être que c'est moi qui vieillis. Hein. On va le voir. Et vous voyez les deux yeux du lapin. Mais maintenant que je l'ai dit, on ne voit plus que ça. Et puis le couteau aussi. Bon. l'enfance et la mort. Donc on revient dans la rue, et là, il y a quelque chose donc, qui est réinstallé, c'est « elle est attendue ». Regardez ce personnage qui se penche bizarrement sur un petit poteau très mince en lisant ce journal. Et puis, il faut qu'on revienne un peu en arrière parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, le travelling commence. La caméra est en avance sur l'action. C'est ça que je voulais dire. La caméra va être en avance sur l'action au début du travelling et en fin de travelling, elle va être en retard. Et ça, c'est très important. Parce que quand Elsie marche dans la rue, elle est trois quarts face au tout début du plan, un bon profil quand même déjà, et petit à petit, elle va passer en trois quarts dos. Et c'est comme ça qu'on évite de voir la grosse ficelle qui vient juste après. Voilà, maintenant on est synchronique dans le temps présent, la caméra est en phase de profil sur le jeu, et puis maintenant elle est en retard, elle prend du retard, et d'ailleurs décadrage. Donc il y a un manque à voir qui amène un recadrage. Ce recadrage place une amorce. Cette amorce est incomplète puisque le ballon va hors champ. Le hors-champ appelle un recadrage vers le haut. Au troisième tir de ballon, ce sera fait. Et là, il y a de l'info. On est en écriture gothique et administrative. Le tueur est recherché. Donc, qu'est-ce qui est opposé ici? C'est l'innocence de l'enfant qui ne sait pas lire et la réalité administrative d'une police qui n'arrive pas à arrêter un meurtrier. Ça s'oppose et Fritz Lang donc, prépare le terrain. Vous avez vu comment la caméra est en avance, puis en phase et enfin en retard. Elle décadre et décadre deux fois et recadre, ce qui permet d'éviter la grosse ficelle, parce que c'est quand même une énorme ficelle, ça. Juste au moment où on lit l'affiche, voilà que par hasard le meurtrier arrive. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est un raccord dans l'écran. Il y a un diaph et demi d'écart entre l'ombre et l'encre. Et il y a l'effet cadran. C'est quoi l'effet cadran? C'est lorsque la petite aiguille se met sur le 6 ou sur le 4, il y a conjonction. Donc là, c'est le visage profil du meurtrier qui se met sur murder. Donc c'est hyper simple, c'est didactique à souhait. Mais il fallait l'amener. Il fallait oser faire ça et l'amener avant, de façon à ce que ce soit appropriable. Et là, c'est le ballon représentant la fillette et l'ombre représentant le meurtrier qui vont dialoguer.
Du hast aber einen schönen Ball.
Et là, l'ombre s'allonge, recouvre et engloutit en quelque sorte par une inférence déformante, engloutit l'enfant. Et que va-t-on trouver juste après?
Wie heißt du denn?
Elisabeth.
Évidemment, on va retrouver la mère dans la même position dans sa cuisine. Mais au lieu, il ne s'agira plus du nombre, mais de sa personne. Donc on va immédiatement dire « c'est Madame Beckmann » par simple contamination des deux plans à la coupe, et on va dire « elle ne sait pas que sa fille vient de tomber dans les pattes de M. » Et nous le savons. Elle s'est approchée du couteau. Son off? Non, pas son off. Elle attend. Il y a un signal d'angoisse qui vient du cœur de la mère, qui déclenche un mouvement tête et cou. Ce n'est pas leur pendule qui sonne, c'est le cœur qui sonne. 20 minutes. C'est long pour venir d'une école toute proche. Fin de la caméra subjective. Voyez les mouvements tête et cou. C'est hyper utile au montage, non ? Tête et cou, c'est un champ d'appréhension. Ça permet de se glisser en subjectif dans le champ. Ah, un son. Donc elle se figure que sa fille arrive, nous ne savons qu'elle ne viendra pas. Donc là on est en subjectif contre-plongé, avec rendu de regard quand le regard est très petit. Et la caméra maintenant occupe l'emplacement que la fillette aurait dû occuper dans l'escalier. Une contre-plongée qui va être scannée par l'escalier va être scanné par le mouvement des yeux de la mère de façon à vérifier qu'elle n'est pas en retard ou quoi que ce soit. Donc on va dire que dans un plan, il y a un contenu qui est narratif et un point de vue qui est discursif. La place de la caméra, sa distance, sa position est un discours sur la réalité qu'on montre. Et dans le plan, il y a une réalité montrée, mais elle est prise dans le discours du point de vue. Et de la durée, à la fois point de vue spatial, géométrique et lumineux, et durée. Donc, on ne peut pas parler de cinéma sans point de vue. Parce que le point de vue crée une perspective hiérarchique avec un premier et un arrière-plan, crée une durée. Donc les gens qui croient filmer le réel se trompent. Bien entendu, on sait tout ça. C'est toujours le réel vu par un point de vue. Vous connaissez la fameuse formule d'Alberti, la fenêtre ouverte sur le monde. Eh bien, on peut renverser la formule. On peut dire que l'image est une fenêtre ouverte sur le point de vue, depuis lequel on voit un fragment du monde. C'est quand même un peu différent que de dire que c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Pourquoi ça ne peut pas être une fenêtre ouverte sur le monde ? Parce que le monde ne fait pas d'image, il ne fait que des objets. Comment voulez-vous voir le monde sans un œil ? Puisque le monde est fait d'objets et d'êtres, n'est-ce pas ? Et comment voulez-vous les voir s'il n'y a pas un œil qui les regarde ? Donc, je dis, l'image est une fenêtre ouverte sur un point de vue, c'est-à-dire un œil humain, qui regarde le monde à travers un cadre, mais c'est d'abord ouvert sur le point de vue. Parce que le cadre sans œil, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous me suivez.
Si.
Le monde n'a que des objets. Pour faire une image, il faut une rétine. Ici, la pupille du MPEG 1000 où tous les rayons lumineux se croisent en un point. Ça, c'est le point de vue. Le point de vue, il faut y aller. Si on est reporter de guerre, il faut y aller au point de vue. Il faut se lever tôt pour aller à un tournage. Donc, on ne peut pas imaginer que l'image soit exempte du point de vue. Sinon, c'est vraiment ça, c'est la contraction des deux en un résultat, n'importe quel plan est à la fois un point de vue. Que veut dire cette contre-plongée ? Ça veut dire que c'est la place vide laissée par la fillette manquante. Et ça veut dire aussi qu'elle est comme ça, le corps est renversé comme dans une espèce d'attente. Le corps est déformé, vous voyez, par la contre-plongée. Alors, question, va-t-on fermer la porte complètement ? Si on la ferme complètement, ça veut dire que, après un certain temps indéterminé, voici que l'action continue. Si on coupe la porte en plein vol, ça veut dire au même moment dans la rue. Donc, ça, c'est un marqueur temporel. Si on coupe cette inférence, Madame Beckmann rentre chez elle, angoissée, par une porte suspendue dans sa fermeture, et qu'on raccorde sur autre chose, ça veut dire qu'au même moment, il y a quelque chose qui se passe. en plongée. Et le montage son nous dit tout de suite où on est, dans la rue, à cause des voitures. Et il y a ici la synchronisation furtive, à peine affirmée, de la danse du ballon et du sifflement du meurtrier. Donc, cette danse tirée de Peer Gynt, opéra contemporain du film. Donc, musique contemporaine pour Fritz Lang. Cette danse qui fait danser les ballons poupées, c'est une métaphore de la relation qui vient de s'ouvrir entre lui et la fillette. La fillette fait danser ses ballons, mais lui fait danser la fillette d'une certaine manière. C'est une sorte de reprise en abîme de la même idée. Et voilà, regardez le ballon poupée qui danse un petit peu, mais pas trop. Il faut que l'idée affleure sans se montrer. Bon, et là, on reste sur le mendiant, parce que probablement qu'il va resservir. Sortie de chant. Et vous écoutez la note aiguë. Il va y avoir un délai de une seconde. Et la même note sur la sonnerie d'entrée de l'appart. C'est-à-dire qu'on vide la mémoire tampon, dite mémoire échoïque. Parce que si on fait... et gling, on va voir, immédiatement, le spectateur va voir le raccord qui fait... gling. Je sais pas si vous me suivez. Bon. Et alors, si on fait... gling... on a vidé la mémoire tampon et on ne voit pas la manip. Et c'est pour ça que je vous parle des sept mémoires, sept cartes temporelles. Il serait trop long d'expliquer, mais la mémoire sensorielle, elle est iconique. C'est-à-dire pour la vision, c'est entre une demi et une seconde et demie. Pour le son, selon les états préalables, ça peut être d'une seconde 5 à 3 secondes. Plus ou moins. Bon, ça dépend du type de son, ça dépend de tellement de choses. Mais justement, il n'y a que le monteur ou la monteuse qui le sent quand elle est devant sa matière sur la table et peut dire là, j'écourte, j'allonge de la quantité requise, vu le contexte, vu le type de son, vu le personnage. Il n'y a pas de règle absolue chronométrique. Bon. Et ici, donc, on a ce son du sifflement qui va être monté via le vidage de la mémoire tampon, et donc il y aura un lien de ressemblance par les hauteurs. On va par la source, puisque la source c'est le gosier et les dents qui sifflent, et de l'autre côté c'est le timbre mécanique et métallique. Mais la même hauteur va introduire une relation de dépendance entre les deux. Alors, est-ce que c'est voulu? Bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut sans se la formuler, la chose. Parce que les pratiques artistiques ont ceci de particulier, c'est qu'une bonne part d'entre elles sont préconscientes aussi bien pour l'artiste que pour le spectateur. Mais elles ont été acquises au terme d'un apprentissage laborieux et besogneux parfois. C'est-à-dire ça devient préconscient quand on a la maîtrise du métier. À ce moment-là, on le fait sans y penser. Mais au début, chaque chose, c'est comme quand on apprend à conduire. Bon, il faut tout penser à tout. Et après, on n'y pense plus, on le fait et ça marche. Donc là, ce que j'essaye de faire... c'est, avec trois ou quatre termes un peu plus théoriques, d'essayer de cadrer, de positionner, d'éclairer, je ne sais pas, ce qui finalement est une affaire de pratique. Déception, donc on va rester...
sensationnel.
On laisse... Madame Beckmann sortir du champ.
Sagen Sie mal, Herr Görke.
Ja. Et lui
haben
surjoue.
Sie Elsa nicht gesehen?
Nee. Ist sie nicht gerade vom Militär aufgelaufen?
Nee. Sie ist noch nicht zu Hause.
Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann.
Là, on a vraiment le sous-texte sous le texte. Hein. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a un texte de surface, mais la réalité, c'est que ce facteur, ce vague-mestre, s'en fiche complètement de l'angoisse de cette mère. Et qu'il n'a pas envie de s'en embarrasser. Et c'est ce qui est donné par le geste vocal couplé au texte facial. Parce que dans la voix, qui est si importante pour accéder aux états internes des personnages, comme du reste le regard et la voix, c'est absolument central dans l'accès aux identifications du personnage. Ce n'est pas du tout la caméra subjective qui nous fait accéder. S'il n'y a pas eu le regard et la voix avant, on n'a rien à se mettre sous la dent, on rentre dans le subjectif sans savoir quoi y mettre. Donc il faut le préparer, ce subjectif. Donc la voix, c'est du texte facial, les mains, les yeux, la bouche, ça compte beaucoup dans la voix. Ensuite, c'est du texte proprement dit. Oh, il ne va pas tarder. C'est du contexte. On a vu par son jeu qu'il s'en fichait, que la mère est angoissée au contraire. Et c'est du geste vocal, parce qu'il ne dit pas « alors, elle ne va pas tarder ». Non, il le dit d'une certaine manière qui est... C'est ça qu'on entend, en fait. Donc, on va dire que la voix, c'est du contexte, du visage et des mains, du geste vocal, du texte, avec toute l'échelle des sous-entendus dans le texte, du genre, votre ballon est sous la table, moi ma sœur est infirmière, oh elle va pas tarder. Toute cette épaisseur sémantique qui part en dessous et qui évite le didactisme premier degré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le processus d'enrichissement que fait le spectateur sur les dialogues qu'il entend et qu'il voit. Il les voit en même temps qu'il les entend. Donc il va enrichir ce qu'il voit et ce qu'il entend par ses propres connaissances et propres projections, et il va accéder aux intentions profondes des personnages, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et là, on aura une double caméra subjective, puisqu'elle est à la fois le cri et le regard en même temps. Et là, c'est l'angoisse. Ferme la porte et regarde la caméra. Non, elle regarde la pendule. Et pendant, à l'intérieur de la caméra subjective, il y a le petit coucou qui sort. Donc c'est là, il y a eu trois horloges, celle de midi, celle du cœur de la mère et celle de mais où est-elle ? Mais là, elle désespère. 1h15, c'est trop long. Tante retentit dans la rue, cette fois-ci par le son. Le monde extérieur existe. Et là, va inventer quelque chose avec son monteur qui est très très beau, c'est de nous montrer les lieux auxquels elle pense. Vous voyez, elle pense au séchoir, elle pense à l'escalier, elle pense à la rue, et finalement ça va se terminer sur une nature morte, c'est-à-dire la chaise entrebâillée au bord de la table. Donc, elle appelle sa fille, on voit des lieux auxquels elle pense, qu'elle ne voit pas et qui sont vides.
Elsie ! Elsie ! Elsie ! Elsie !
Voilà. Vous voyez, nature morte avec un angle ouvert. Là, il y a une chose importante c'est le raccord de position dans l'écran. On en a peut-être pas encore assez parlé, mais ça fait partie des raccords essentiels du travail du monteur. Où se place l'épicentre d'un écran à l'autre, d'un plan à l'autre? Est-ce que l'œil du spectateur va faire une grande excursion? Par exemple, si l'épicentre est là, et que dans le plan d'après, il est là-bas en haut, clac, il faut aller le chercher. Par contre, si l'épicentre est là, dans le plan d'après, il est là, toc, toc, une toute petite saccade, ça raccorde. Donc, l'emplacement dans le cadre, ça doit être pensé par la mise en scène. C'est-à-dire, si le metteur en scène n'a jamais fait de montage, il ne se rend pas compte des nécessités de raccord à l'intérieur du plan. Je ne vous apprends rien en disant ça. Hein. Par contre, ceux qui ont fait un peu de montage ou même pas mal, ils savent de quoi on a besoin pour que deux plans s'enchaînent sans à-coup. Bon, si on veut un à-coup, c'est qu'il est justifié, c'est qu'on en a besoin. Regardez où surgit le ballon, dans l'angle ouvert par la chaise. Il va arriver par là, il va s'immobiliser dans l'assiette. Je parle des emplacements. Donc, la chaise vide, l'assiette vide, et à la place de la fillette, le ballon, à la place de la mort, l'immobilité. Et pour conclure, le ballon poupée qui s'envole dans les fils d'une société communicante et téléphonique. Vous voyez, ça ne peut pas être un hasard, c'est pas possible. Et là, c'est tourné en marche arrière, ce plan. Il est tourné en marche arrière parce que, en marche avant, le ballon s'envole vers le ciel. Fritz Lang ne voulait pas d'une symbolique d'une âme morte qui monte au ciel. Donc, il a tourné le plan en marche arrière et il l'a monté en marche avant. Bien.
Combien on a mis de temps pour ça? On a mis du temps.
9h15, oh là là. Bon. Mais ça fait 6 minutes, mais pour monter 6 minutes, vous mettez beaucoup plus de temps que ça. Hein. Donc, soyons modestes. Et encore, je pense que je n'ai pas vu le quart du centième de ce qu'il y a à voir dans tout ça. Bon, mais bon, un petit peu. Parce qu'en fait, dans la dramaturgie, il y a toujours cette idée que tantôt on en sait moins que le personnage et on veut savoir ce qu'il va faire, puisqu'il lui, il en sait plus que nous. Tantôt on en sait plus que lui, à ce moment-là, on veut savoir comment il va se débrouiller avec notre savoir supplémentaire. Et donc, la tension dramatique dans ces 6 premières minutes provient des savoirs différentiels. D'une part, mais pas seulement, ça provient aussi des identifications affectives qu'on a eues avec les personnages. Et après, bah, ça marche tout seul ou presque. Enfin, il faut quand même essayer de faire marcher. Je voulais dire que, au fond, ça nous permet de placer deux autres concepts, la résonance motrice et l'inférence partielle. Bon, j'aime bien votre rire. La résonance motrice, c'est un truc très simple, pareil. Comment est-ce qu'on comprend un mouvement? Comment comprend-on un mouvement du corps? Simplement parce que nous rentrons en résonance avec ce mouvement, parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Si je fais un mouvement complètement inconnu, et qui ça n'évoque rien, on dit ce type, il est zinzin, et puis voilà tout. Mais si je fais un geste connu, immédiatement, l'image rétinienne va être lue dans mon cortex corporel. C'est ça que ça veut dire, la résonance motrice. Le cortex visuel ne sait rien de ce qu'il voit. Il doit aller chercher dans le vécu moteur, dans les actes, dans ce qu'on sait faire. Il va lire ce que le spectateur est l'ultime interprète du personnage, si vous voulez qu'on dise les choses autrement. Grâce aux neurones miroirs qui ont été découverts en 1997, c'est pas vieux, on sait que l'image rétinienne va se faire lire dans la mémoire corporelle. Une fois qu'elle a trouvé son écho, elle revient se projeter sur l'écran. Ça prend 20 à 150 millisecondes. et ça traverse quelques 20 synapses. Nous disent les neurosciences, autant qu'on puisse les croire, hein, c'est pas sûr que ça que ce soit aussi vrai que ça, mais en tout cas, n'importe quel geste de n'importe quel personnage, il est décodé par l'œil et le cerveau, mais il va se faire lire dans la mémoire corporelle et se reprojette ensuite sur l'écran grâce aux neurones miroir. Donc la résonance motrice n'est rien d'autre que d'accorder du sens à ce qu'on voit à travers les gestes qu'on a fait soi-même. Si par exemple je vais dans un film je suis pré-ado, je vais dans un film, je n'ai jamais connu de chagrin d'amour. Et je vois une histoire d'amour avec un chagrin d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que mes neurones miroirs disent à ça?
Alors ça...
Ah oui, alors là... Non mais c'est un exemple bêtement didactique. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais c'est vous dire, si on n'a pas vécu soi-même la chose qu'on nous montre, il n'y a pas de résonance. Il y a ça reste extérieur. Pour que ça devienne une appropriation dans le vécu, la mémoire profonde, il faut que les choses aient été vécues plus ou moins. Plus ou moins. Donc c'est le concept de résonance motrice qui est très important pour les monteurs et les monteuses, à savoir la lisibilité et la durée. Si le geste est trop court, ou à moitié caché, ou furtif, il n'a pas son existence pour qu'on comprenne. Si au contraire il est trop appuyé, trop longtemps montré, c'est l'inverse. Donc la résonance motrice, elle doit être réglée au petit poil par la mise en scène, par le jeu, mais aussi par le montage. Et parfois on est obligé d'écourter des choses trop longues, n'est-ce pas ? Le deuxième concept après la résonance motrice, c'est l'inférence partielle. C'est quand on met un objet dans les mains d'un personnage. C'est la rencontre d'une affordance et d'une inférence. Par exemple, quand Madame Beckmann essuie son truc, tourne sa soupe, etc., ça veut dire beaucoup de choses. À ce moment-là, les objets et les corps se mettent à fonctionner et on est déjà dans un monde imaginaire puisque c'est l'imaginaire du spectateur qui fait fonctionner l'une et l'autre. L'affordance de l'objet et l'inférence du personnage. Puisque l'inférence du corps est lue par sa mémoire motricienne et l'affordance par ses connaissances. Les propriétés pratiques des objets, c'est qu'il les connaît et ce qu'il lit du mouvement du corps, c'est son propre mouvement, au fond. Le mouvement qu'il a déjà vécu et qu'il redonne, qu'il cède au personnage qu'il voit. Donc au fond, l'imaginaire du spectateur, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? C'est peut-être la mémoire de nos actes, que, pas seulement, mais disons que l'imaginaire, en bonne part, c'est tout ce qu'on a fait et qui nous permet de construire des choses qu'on n'a pas faites, en les assemblant autrement. Donc, on pourrait dire, si on s'en tient à la mémoire motricienne, que celle-ci joue un rôle très important dans la fabrication de nos images mentales, de nos constructions mentales. Donc, les deux concepts que je voulais simplement nommer en passant, c'est l'inférence partielle, un objet plus un personnage, et la résonance motrice qui va avec.